dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Avant que Stéphane passe à la lecture, il va nous lire les versets 1 à 35 dans Matthieu 24. S'il y en a qui ont besoin d'avoir une copie des Saintes Écritures pour pouvoir suivre avec nous, simplement levez la main. Les placeurs vont se faire un plaisir de vous apporter une Bible. Tournez dans Matthieu 24. Il y a une dame ici à l'arrière qui aimerait en avoir une, s'il vous plaît. Comme ça a été mentionné tout à l'heure, cet après-midi, nous avons la réunion annuelle ou la réunion d'affaires de l'Église où on regarde ensemble le budget qui est présenté pour l'année, tout ça. On est dans une assemblée congrégationaliste et votre présence dans ces rencontres-là est très importante pour les membres de l'Église. La semaine dernière, je le mentionnais, on a plusieurs votes cet après-midi. On a des votes, évidemment, concernant le budget, concernant, comme on l'a mentionné tout à l'heure, deux diacres que nous vous recommandons. Mais un autre vote aussi qui est important, parce qu'il va avoir un impact à plus long terme aussi dans la vie de l'Église, c'est que le Conseil des anciens vous recommande l'embauche d'Alexandre Marquis comme pasteur responsable de l'évangélisation. Et il commencerait cet automne à raison de 3 jours semaine. Et donc, on a besoin de vous entendre. Personnellement, pour être passé par là, vous savez, lorsqu'on décide, comme Alexandre, de quitter une profession d'ingénieur avec une carrière qui est en train de s'installer, qui est en train de s'établir et qu'on cherche la face de Dieu parce qu'on sent progressivement un appel se placer sur notre vie et qu'on a l'impression que Dieu est en train de nous appeler puis on cherche sa face, dans les Écritures, l'amen de l'Église, la réponse, le témoignage de l'Église est extrêmement important pour nous aider à discerner la volonté de Dieu sur nos vies. Et donc, Alexandre a déjà fait ce choix d'avancer par la foi. Alexandre et Cynthia, ça prend toute une femme à côté d'un homme comme ça pour laisser une carrière d'ingénieur et puis de commencer des études en théologie. Alexandre et Cynthia se sont engagés sur cette voie-là il y a déjà quelques années. Nous travaillons à sa formation. Il a été reconnu par l'Assemblée ici comme ancien. Maintenant, nous désirons faire appel à lui et à eux pour qu'ils s'attachent à l'Église ici à plus long terme, une fois les études terminées, afin de travailler comme pasteur responsable de l'évangélisation. Votre présence cet après-midi est importante dans la vie de cette Église et dans la vie d'Alexandre et de Cynthia. N'est-ce pas, Alex? Amen. Alors, on va écouter ensemble la parole de Dieu. Encore une fois, Stéphane va nous lire Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 35. Dans le micro qui est ici à l'avant. Non.
Ça ne sera pas long. Ah, merci. Voilà, merci. Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 35. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui, pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui le lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus ses lumières, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Amen. Merci. On va se courber ensemble dans un mot de prière, d'accord? Seigneur Jésus, des prophéties anciennes annonçaient la venue d'un Messie. Seigneur, dès les premiers chapitres de la Bible, dans des temps très anciens, tu as commencé à annoncer la venue d'un Messie qui viendrait rétablir toutes choses, qui viendrait sauver les hommes de leurs péchés. Un prophète plus grand que Moïse encore. Et pourtant, Seigneur, les siècles ont passé avant ta venue. Des siècles et des siècles ont passé avant que tu ne viennes sur cette terre, Seigneur, il y a 2000 ans. Tu as fait ton œuvre dans ta gloire. Tu as été trouvé fidèle jusqu'à l'épreuve ultime de la croix, Seigneur. Et tu as offert ta vie en sacrifice pour les péchés des hommes, afin que nous puissions être réconciliés avec notre Créateur. Tu as été trouvé fidèle et tu as été ressuscité d'entre les morts, comme un sceau de Dieu sur ton sacrifice. Seigneur Jésus, tu es retourné auprès du Père. Et nous attendons ton retour. Et nous attendons ton retour, Seigneur. Et nous attendons encore ton retour, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie de parler à nos cœurs par ta parole ce matin. Parle-nous, Seigneur, afin que nous soyons prêts pour ton retour. Que nous soyons trouvés fidèles pour ton retour, Seigneur. Père, j'aborde humblement ce passage qui est un passage difficile à comprendre. Mais j'en retiens ceci, Seigneur, avant tout. Je veux être trouvé fidèle, Seigneur, et prêt pour ton retour. Alors je te prie de venir nous parler par ton Esprit Saint ce matin, Seigneur. Toutes les belles paroles que je pourrais prononcer ce matin seront inutiles si ton Esprit ne fais pas une œuvre au milieu de nous. Viens réveiller les cœurs endormis, Seigneur. Viens libérer ceux qui sont esclaves du péché, Seigneur. Et donne-nous une véritable passion pour ta mission, Seigneur. Afin que nous puissions hâter, si cela était possible, ton retour, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quel passage troublant, non? C'est un passage qui annonce des moments difficiles. C'est un passage qui parle d'épreuves, de souffrances, de séduction. Tournez avec moi dans Matthieu 11, avant qu'on revienne dans Matthieu 24. J'aimerais ça vous lire un autre passage, parce qu'en étudiant Matthieu 24 cette semaine, j'avais une énigme à résoudre dans mon cœur. Ce que je vois dans Matthieu 24 n'est pas exactement le genre d'expérience à laquelle j'aspirais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ce qui est décrit dans Matthieu 24 comme ce qui nous est réservé comme chrétiens, ce n'était pas exactement à cela que j'aspirais en donnant ma vie à Jésus-Christ. C'est un petit peu plus ce qu'on trouve dans Matthieu 11, verset 28, 29 et 30. Venez à moi, c'est Jésus qui parle ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Moi, c'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand je suis venu à Jésus-Christ, j'étais tanné de me battre. J'étais fatigué de me battre avec moi-même, avec mes passions. J'étais fatigué d'avoir le sentiment de me battre avec tout le monde autour de moi. J'étais fatigué de poursuivre un style de vie qui m'apparaissait épuisant. J'en suis venu à un certain moment donné à goûter à la vanité de ce que je poursuivais, que tout cela n'avait pas de sens. Et moi, j'avais eu le privilège d'entendre l'Évangile depuis l'âge de 7-8 ans. Et ma mère était chrétienne, elle me parlait de l'Évangile avec une patience extraordinaire. Et à un certain moment donné, j'ai cédé. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton repos. J'ai besoin de quitter cette vie épuisante pour entrer dans ton repos. Personnellement, c'est pour ça que je suis venu à Jésus-Christ. J'avais compris le salut, j'avais compris tout ça, mais j'avais besoin d'un Dieu qui prendrait soin de moi. Et là, j'arrive dans Matthieu 24. Et le Seigneur est parti. Il est remonté auprès du Père. Il nous laisse ici sur la terre et voici ce qu'il nous annonce. C'est gai. Ça a l'air super excitant comme programme, non? Il dit, il va y avoir des séducteurs. Et il y en a beaucoup qui vont être séduits. Soyez pas surpris, plein de gens vont faire profession de foi, plein de gens vont abandonner la foi, séduits par des fausses doctrines. Un beau programme. Mais il dit, c'est pas tout. Il dit, on va vous maltraiter, on va vous faire mourir, vous serez haïs partout sur la terre. Vous ne trouverez pas une nation sur la terre où ça va être comme le pays des chrétiens. Tu sais, où on pourrait louer Jésus en paix. Non, partout vous allez être haïs, partout sur la terre. Et il y en a qui vont succomber sous cette pression. Ils vont venir à se trahir, à s'haïr les uns les autres. L'amour du plus grand nombre va même diminuer. Et il revient encore à partir du verset 21 ou 23 et suivant, avec cette idée qu'il va y avoir des faux prophètes, des faux Christs qui vont venir. Et il dit, si ce n'était pour les élus, ça aurait été difficile. C'est quoi qui s'est passé entre Matthieu 11 et Matthieu 24? Parce que moi, Jésus m'avait donné un programme de repos, de paix, de libération, libération du péché, libération d'un paquet de tourments, d'un paquet de fardeaux. Et j'arrive dans Matthieu 24 et je vous avoue qu'on est pas mal en guerre ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Quel est le repos que Jésus nous annonce s'il faut qu'on vive le repos à travers les persécutions, les châtiments, les divisions, les séducteurs qui viennent vers nous? Jésus-Christ nous a promis le repos dans la tempête, en attendant le jour où nous entrerons dans le repos avec lui pour l'éternité. Jésus-Christ nous a promis qu'il nous délivrerait de nous-mêmes, de nos passions qui font la guerre à l'âme et qui rendent l'homme misérable et malheureux. Jésus-Christ nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours au milieu de la bataille. Jésus-Christ nous a promis que nous pourrions trouver la paix au milieu des persécutions et des tourments. Jésus-Christ nous a promis qu'il nous préserverait, qu'il nous garderait dans la vérité au milieu des mensonges qui peuvent être présentés partout. Jésus-Christ nous a promis qu'il nous guiderait. Et Jésus-Christ nous a promis qu'il reviendrait nous chercher. Ça, c'est le repos que Jésus-Christ a annoncé. Le repos dans la bataille. Et quand je ne saisis pas cela, je poursuis quelque chose d'autre. J'attends de l'Évangile qu'elle me donne la prospérité. J'attends de l'Évangile qu'elle me donne la santé physique. J'attends de l'Évangile qu'il me donne des relations faciles. J'attends de l'Évangile qu'il me transforme et me rende populaire, quelqu'un de bien, quelqu'un qui est admis par tout le monde. Quand je ne saisis pas que le repos que Jésus-Christ a annoncé, c'est le repos à travers le champ de bataille. Amen. Et à celui qui vient à Jésus-Christ, il va être accordé la grâce de pouvoir faire une sieste dans la barque avec Jésus au milieu de la tempête. Est-ce qu'il y a des tempêtes dans vos vies? Est-ce qu'il y a des persécutions dans vos vies? Est-ce qu'il y a des divisions dans vos familles à cause de l'Évangile? Est-ce qu'il y a des gens qui vous méprisent à l'école, au travail à cause du nom de Jésus-Christ? Est-ce que vous trouvez que la vie ici est difficile parce que la terre est bouleversée par des cataclysmes et qu'il est difficile de s'installer? Bien, j'ai envie de vous dire, la croisière, c'est pour plus tard. Oubliez ça. On est en mission pour l'instant. Nous sommes en mission pour l'instant. Et le repos, on doit le trouver sur le champ de bataille. Amen. Regardons de plus près Matthieu 24. Le contexte de Matthieu 24 commence avec les versets 1 et 2. Il y a eu des commentaires durs de la part de Jésus à l'égard des chefs religieux et même un jugement qui a été prononcé sur le temple. Maintenant, si Jésus n'a pas été parfaitement clair jusque-là, il va l'être ici. D'accord? Versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'est évident que les gars n'ont pas tout saisi encore. Le temple est plus important, mais eux sont encore en train de se pâmer devant cette belle architecture. Et ils trouvent ça fantastique. Alors Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Alors là, les disciples sont intéressés. Ils veulent avoir des dates. Quand est-ce que ça va se passer? Ils prennent un temps à l'écart avec le Seigneur, verset 3, et il nous a dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. OK, Seigneur, nous autres, on est dans le secret du Dieu, non pas des dieux. Quand est-ce que ça va se passer? Je vais le mettre dans mon agenda. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? À mon avis, il pose une seule question ici. À mon avis, pour les disciples, le retour du Seigneur, la fin du monde, c'est un élément peut-être, c'est confus, d'accord? Ils veulent savoir quand est-ce que ça va se passer, cette affaire-là. Bien, la réponse à cette question se trouve au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et voilà, on a tout dit. Jésus a répondu à leur question. Quand est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Personne ne peut savoir vraiment. C'est juste le Père qui le sait. En somme, c'est ça que Jésus dit. Là, il va parler de signes, il va parler de choses qui se passent, mais l'accent de Jésus dans ce passage n'est pas à nous donner les indices pour savoir exactement à quel moment ça va se passer. La réponse, il nous l'a donnée. On ne le sait pas. Alors, on étudie le passage puis on essaie de comprendre. OK, lorsque l'abomination de la désolation va venir dans le lieu saint, probablement la destruction de Jérusalem en 70, probablement que c'est ça qui s'est passé là. On essaie de comprendre ce qui va se passer. Mais l'accent de Jésus-Christ n'est pas sur le quand autant que préparez-vous. Préparez-vous à traverser cette période-là. Amen. Alors, des fois, on entend les chrétiens, on voit des tremblements de terre, on voit des séismes, on voit des choses, puis là, tout excité, on s'en vient, puis on dit, ça s'en vient! Mais c'est pas ça que j'ai lu, moi, dans le texte. C'est pas ça que j'ai vu ici. Il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tremblement de terre au Chili. Tremblement de terre en Haïti. Si je lis le texte ici, ça peut être long encore. C'est juste le début. Ensuite de ça, il parle des persécutions contre les croyants. Et vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, le 20e siècle est exceptionnel. Quand on parle de guerre et de bruit de guerre, de persécution de croyants, le 20e siècle est exceptionnel. On a eu deux guerres mondiales. Et au cours du 20e siècle, il y a eu plus de chrétiens faits martyrs que dans toute l'histoire du christianisme réuni. Alors, si ces choses doivent nous dire que c'est imminent, c'est certain qu'on va être en train de tressaillir un peu sur notre siège puis de dire « Oh, ça s'en vient! » Le problème, c'est que Jésus dit ici, c'est le début des douleurs. C'est le commencement. Ce n'est que le début, les amis. Voyez-vous, Jésus-Christ ne se concentre pas dans ce passage-là sur les signes pour que nous les identifions. Il se concentre sur l'attitude du cœur. C'est un passage qui est vraiment difficile à saisir. Pour autant que je puisse comprendre, les versets 15 à 20 nous parlent probablement de la destruction de Jérusalem. Probablement parce qu'il parle de désolation dans le lieu saint. Daniel avait parlé de ça. Il nous parle de la Judée ici. Et en effet, il y a eu des guerres juives dans les années 66 et suivants. Il y a eu une destruction et des tourments à Jérusalem exceptionnels dans l'histoire de l'humanité. Exceptionnels, les souffrances qui ont été infligées ainsi sur une ville. D'accord? Et il y avait un lieu saint. Alors, probablement que c'est ça qui se passe ici. Mais au-delà de ça, commencer à discerner les choses, c'est très, très vague. J'essaie de comprendre moi-même qu'est-ce qu'il y en a. Je lis toutes les positions. J'essaie de comprendre ce qu'il y en a. J'ai deux certitudes que je peux vous donner. La première est à la fin. Au verset 34, 35. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Première certitude, Jésus-Christ revient. Il va revenir physiquement. Il va revenir pour chercher ses élus. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans la prière. Nous, on regarde le timeline, la ligne de l'histoire, et on dit, mais c'est long cette histoire-là. Et pourtant, Jésus avait annoncé, les Saintes Écritures, les prophètes avaient annoncé la venue du Messie. Il y a eu un bon bout de temps entre les premières prophéties de l'Ancien Testament et la venue de Jésus-Christ, d'accord? Tant et si bien que Jésus est venu et puis ils n'ont rien vu passer. Alors, soyez confiante, de la même manière qu'il a été fidèle, que Dieu a été fidèle pour accomplir ses prophéties dans l'Ancien Testament et nous envoyer le Messie qui est venu mourir sur la croix, de la même manière, il revient. Ça, c'est une certitude. La terre pourrait être détruite, que sa parole tiendrait. L'environnement va mal? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter à l'égard de notre éternité, à l'égard de Dieu, à l'égard de la fidélité de Dieu. La terre pourrait passer, Jésus-Christ va revenir, il est fidèle. Il va accomplir ses promesses. Première certitude. Deuxième certitude, lorsqu'il va revenir, tout le monde va le savoir. Ne vous y trompez pas, lorsqu'il va revenir, il n'y a personne qui va le manquer. Il y a deux groupes, les élus, qui vont être rassemblés des quatre coins de la terre pour être réunis avec lui. Il va revenir pour nous chercher. Et l'autre groupe, ce sont tous les hommes qui auront rejeté Jésus-Christ jusqu'à son retour et qui se lamenteront au moment de son retour. Mais tous les hommes vont le savoir. Les signes vont devenir tellement puissants et tellement clairs. Tout le monde va le savoir. Il est là. Il est présent. La question, c'est dans quel état est-ce que moi je vais être lorsqu'il va revenir? Alors, les disciples viennent et posent une question. Quand est-ce que ça va se passer, Seigneur? Je ne le sais même pas moi-même, les boys. Une chose que je peux vous dire, c'est que je vais revenir. Quand le Père va me donner le signal, je m'en viens tout de suite. Les choses sont prêtes, j'arrive, je vous le garantis. Et quand je vais revenir, ne vous y trompez pas, tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir. Alors, jusqu'à temps que tout le monde dise « c'est maintenant », courez pas après les autres. C'est tous des faux. Ce sont tous de faux Christ. Tous de faux prophètes. C'est à peu près les certitudes que j'ai ici. Quand Jésus-Christ reviendra, tous les hommes de la terre le seront et Jésus-Christ reviendra. Maintenant, ce que je vois ici dans ce passage, c'est que Jésus se concentre beaucoup plus sur des exhortations pratiques. Comment est-ce que nous devons nous préparer à traverser cette période-là? Et là, j'aimerais faire ressortir ce matin avec vous plusieurs exhortations pratiques, 6 exhortations concrètes. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette période entre les deux? Bien, la première, c'est au verset... Je vais le trouver, ça ne sera pas long. 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Un peu plus loin, il va revenir avec le même thème au verset 26 lorsqu'il dit « Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » C'est clair qu'il va y avoir des séducteurs. Il va y avoir des faux docteurs qui vont tenter de nous détourner de l'Évangile. Paul parle dans la lettre aux Galates d'un autre Évangile qui est annoncé. Les témoins de Jéhovah ont annoncé qu'en 1914, Jésus-Christ est revenu de manière invisible. Ben moi, j'ai l'impression de lire le verset 26. Là. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans une chambre, ne le croyez pas. Donc, quand il va revenir, tout le monde va le savoir. Tout le monde va le savoir. Ça va être évident. Il va y avoir des séducteurs qui vont être là pour nous entraîner ailleurs. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de lire sur le blog de Al Mohler, j'étais en train de lire une étude qui a été faite par des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont fait une étude psychologique avec des pasteurs américains. Ils ont approché des pasteurs d'églises libérales et aussi des pasteurs d'églises conservatrices. Et ils ont trouvé un certain nombre de pasteurs qui sont dans le ministère, qui restent dans le ministère et qui ne croient plus en l'existence de Dieu. D'accord? Et ce que je lisais, c'était, évidemment, ils étaient sous l'abri de l'anonymat. Ils étaient, on ne connaissait pas leur vrai nom. Mais d'églises presbytériennes, d'églises Église de Jésus-Christ, certaines églises très, très libérales. Et candidement, ils disaient, écoute, c'est mon gagne-pain. Je disais, si je m'en vais ailleurs, comment je vais faire pour faire vivre ma famille? Et les gens qui les passaient en entrevue disaient, « Oui, mais comment tu fais chaque dimanche pour aller là? » Bien, je sais que c'est un peu hypocrite, mais comme je ne crois plus dans la Bible, l'hypocrisie, ce n'est plus une question pour moi non plus. Ou bien, un monsieur disait, « Bien, je le vis un peu comme si j'entrais dans un rôle. Je sais c'est quoi être un chrétien qui adore, alors je m'en vais jouer mon rôle le dimanche matin. » Ces gens-là sont en train de diriger des églises. Un des pasteurs a dit, « Vous me donnez 200 000, je donne ma démission n'importe quand, je peux payer mes comptes, je laisse ma job. » Je dis pas ça pour vous effrayer, c'est la réalité, d'accord? Alors après ça, lorsqu'on lit les journaux, on voit des scandales, on voit des choses arriver. Oui, mais c'était là, c'était dans les Écritures, c'était simple. Puis nous, on est tout à l'envers, puis là, on dit, oui, mais là, ça nuit au témoignage de l'Évangile. Sans aucun doute, les scandales vont arriver. Ils vont arriver. Et pourtant, sa parole va s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement pour nous? Mais je vous dirais le strict minimum, connaissez la Bible. Soyons concrets. Si Jésus nous a dit qu'il va y avoir des séducteurs qui vont annoncer un autre évangile, si ceux qui annonçaient un autre évangile ont déjà commencé à annoncer un autre évangile du temps de l'apôtre Paul, qui était là en train d'essayer de sécuriser la foi des chrétiens pour leur dire, « Non, 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 ajoutez pas des choses. Tenez-vous-en à ce qui a été enseigné. » Si c'était le cas à ce moment-là, Jésus nous l'a annoncé, connaissez la Bible. Connaissez les Saintes Écritures pour pouvoir discerner, pour avoir du discernement. Je vais être encore plus concret que ça. C'est pour ça qu'on a des cours le dimanche matin. C'est pour ça que vous êtes dans une église où on passe tellement de temps à étudier les Écritures, à apprendre, à comprendre la parole de Dieu, à comprendre c'est quoi la différence entre une lettre et puis un évangile. C'est quoi ces styles littéraires-là? Et lorsqu'on s'en va dans les psaumes, Alexandre est en train de faire avec les jeunes le survol de l'Ancien Testament. Ben oui, vous entendez toutes sortes de critiques contre l'Ancien Testament. Oui, mais il faut savoir comment c'est écrit cette affaire-là. Puis c'est quoi une prophétie? C'est quoi un texte prophétique? C'est quoi les livres historiques? Quelles sont les doctrines que nous trouvons dans les Écritures? Connaissez la Bible. Il y a des séducteurs. Comment vous allez faire pour vous protéger? Connaissez la Bible, tenez-vous avec des croyants qui marchent selon les Écritures. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont tourner autour de vous pour vous attirer ailleurs. Tenez-vous avec des croyants qui marchent selon les Écritures. Prenez du temps dans la parole de Dieu chaque matin pour connaître vous-même la parole de Dieu. Et lorsqu'il va y avoir des mensonges, vous allez avoir ce discernement d'une personne qui n'a jamais fait d'études théologiques à l'université, mais qui lit la Bible depuis 20 ans. Il y a une espèce de discernement assez fantastique qui s'installe lorsque quelqu'un, humblement, à la hauteur de ses connaissances, lit les Écritures pendant 20 ans, étudie la Bible, suit des cours dans l'Église, jamais connaît aucun mot en grec sinon agapé, d'accord? Mais il y a cette espèce de discernement qui est là. Et cette personne entend quelqu'un apporter quelque chose puis dit, quelque chose qui cloche là-dedans. Mais si vous faites profession de foi et vous ne plongez pas les regards dans la parole de Dieu pour affermir votre foi, vous demeurerez des enfants spirituels qui en seront au lait. Et vous serez tellement facile à être détourné de l'Évangile. Tournez avec moi dans Éphésiens 4, s'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a un but à cela. Il y a un but à cela. Ce n'est pas juste de se refaire cringuer pour une autre semaine. Il y a un objectif derrière cela. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, d'homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi. Période de séduction. Il y a des séducteurs. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Ne vous y trompez pas, il va y avoir des séducteurs. et vous vivez à, nous vivons à une époque où les enseignants pullulent. Encore la prochaine génération, vous êtes sur le web. Vous lisez un paquet d'affaires, vous entendez un paquet de choses. Vous avez beaucoup d'autres enseignants que ceux qui sont dans cette église, plusieurs d'entre vous. Vous avez vos enseignants sur le web. Vous faites des lectures. Vous allez dans une librairie, vous faites des lectures. Connaissez la parole de Dieu. Affermissez votre foi pour comprendre l'Évangile de manière solide. Aiguisez votre discernement, parce qu'il va y avoir des séducteurs qui vont venir et qui vont annoncer un faux évangile. Ils vont être à l'extérieur des églises, ils vont être dans les églises. Première exhortation pratique. Deuxième, préparez-vous à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de profondément pernicieux lorsqu'on en vient à présenter l'Évangile comme un moyen de devenir quelqu'un de meilleur et quelqu'un de plus populaire. D'accord, l'Évangile, lorsque ça devient un programme pour façonner ta personnalité puis te rendre le cool dude à l'école, au travail, tout ça, il y a quelque chose de vicieux dans cette idée-là où on pervertit l'idée de l'Évangile. Prêcher l'Évangile et vivre l'Évangile va toujours être un scandale. Ça va toujours être une folie. D'accord? Le christianisme, ça n'a jamais le moyen de devenir populaire. Dans le meilleur des cas, ce que vous allez vivre, c'est qu'au travail, des gens vont vous respecter secrètement pendant que d'autres vont vous mépriser publiquement. C'est ceux que le Seigneur est en train d'appeler tranquillement à lui. Ceux qui vous respectent secrètement. Et avec eux, vous allez pouvoir faire un bout de chemin pour leur parler du Seigneur. Ils vont s'intéresser à votre vie. Ils vont voir ce que Christ est en train de faire dans votre vie. Mais le christianisme ne sera jamais un programme pour augmenter votre cote de popularité. Cherchez pas une église qui va augmenter votre cote de popularité non plus. Elle ne prêche probablement plus l'Évangile. Mais c'est tentant pour nous, hein? D'essayer de présenter une espèce de christianisme qui fait que les gens nous trouvent tellement comme sages. Toi, tu as une sagesse éternelle. Toi, là, tu as des beaux principes. Je te regarde, puis tu n'as pas d'endettement, tu es en train de t'installer. Wow! Continue, ouvre la bouche. Il faut que tu parles de la croix, de l'enfer, du seul moyen de salut qui est Jésus-Christ. S'il continue à t'écouter, probablement que l'Esprit est en train de l'attirer. Probablement. L'autre, il va se tourner en riant. Puis il va commencer à jaser dans le bureau. Dans la boîte, on va commencer à parler du Jesus freak qui croit encore dans l'enfer. D'accord? Préparez-vous à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Il y a une séduction incroyable dans notre société avec cette espèce de confort qu'on a. Tout le monde doit être respecté, donc le christianisme doit être respecté. Je vous le dis, annoncez la croix, il y en a qui vont vous admirer secrètement. Et il y en a qui vont vous mépriser publiquement. C'est notre lot. Ça fait partie de la game. Il faut que je réussisse dans ma compréhension de Dieu à réconcilier le repos en Jésus-Christ avec les souffrances pour le nom de Christ. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Il faut que je réussisse dans ma compréhension de ce que Dieu m'offre à réconcilier le repos en Jésus-Christ avec les souffrances pour le nom de Christ. Aimer mes ennemis, bénir ceux qui me maudissent, aimer ceux qui me méprisent, annoncer l'Évangile même lorsque ça cause des divisions. Et pourtant, entrer dans le repos en Jésus-Christ. Préparez-vous à souffrir pour le nom de Christ. C'est ça le programme. C'est ça le programme. C'est ça le programme. Et lorsque Dieu va placer sur votre chemin des moments de souffrance à cause du nom de Jésus-Christ, ouvrirez-vous la bouche pour Christ? Si vous n'êtes pas prêt à souffrir et si vous pensez que l'Évangile va vous apporter le repos et la prospérité, les 7 clés du succès pour réussir la vie, qu'est-ce que vous allez faire quand Jésus va dire, « Non, non, ouvre la bouche, comprends que tu t'en viens provoquer un scandale. Tu vas perdre des amis. Ils vont te tourner le dos, mais ils s'en vont en enfer si tu n'ouvres pas la bouche. » Préparez-vous à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Deuxième exhortation pratique. Ne vous laissez pas refroidir par le péché. Le texte est clair. Cette semaine, j'étais avec Danny, puis on parlait de la croissance de l'Église ici. Puis Danny me disait, l'Église a été fondée dans les années 60. Regarde combien ce qu'on est, on n'est pas si nombreux. Puis on s'encourageait en se disant, oui, mais il y a tellement de missionnaires qui sont partis d'ici, puis de gens qui sont allés dans d'autres églises. Mais la réalité, c'est que c'est la parabole des quatre terres. Hein? On annonce beaucoup l'Évangile. Plusieurs font profession de foi. Plusieurs d'entre eux quittent la foi. Jésus est très clair. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Plusieurs vont abandonner la foi. Plusieurs vont quitter, enveloppés par le péché. Tournez avec moi dans la lettre aux Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux 12. Verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Frères et sœurs, Jésus nous le dit, le programme est clair, plusieurs vont abandonner. Parce qu'ils vont se décourager, se tanner de lutter contre le péché. Et ils vont commencer à suivre le courant du monde. Ils vont se laisser envelopper. Leur cœur va se refroidir à l'égard de Christ. Les élus seront sauvés. Je ne suis pas en train de remettre en question l'élection. Dieu est fidèle. Oh, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, on verra bien que ce sont les élus. On le verra très bien. Mais le programme est clair. Quand je détourne les regards de Christ et que je laisse le péché commencer à entrer dans ma vie, à refroidir mon cœur, je joue avec le feu. Parce que Jésus a fait une prophétie. Ce n'est pas tout le monde ici qui s'en va au ciel. Vous comprenez ça? Quand je viens à l'église le dimanche matin, je dis, Seigneur, je sais que ce n'est pas toute la gang qui s'en va au ciel. Je sais qu'il y en a ici qui vont abandonner la course, le cœur refroidi, emporté par le péché, Seigneur. Ils vont commencer à suivre le courant du monde. Vous comprenez que c'est comme ça que je vois l'Église, c'est comme ça que je la regarde, parce que c'est comme ça que Jésus la regarde. Alors lorsque je commence à jouer avec le péché, à lui donner une place dans mon cœur, à le laisser refroidir mon cœur. Je joue avec le feu. L'auteur de la lettre aux Hébreux me dit, « Garde les yeux fixés sur Christ et résiste jusqu'au sang pour marcher avec Jésus-Christ. » Êtes-vous prêt à résister au péché jusqu'au sang? C'est pratique, les amis, parce que Jésus est fidèle et il revient. Jésus revient. Et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Moi, ça me fait trembler. Quand je sens que mon cœur commence à se refroidir à l'égard de Dieu, je dis, Seigneur, je crois dans ta souveraineté, je sais que tu es fidèle, je sais que tu tiens ta parole, mais je vais être trouvé parmi les élus, Seigneur. Le péché a un pouvoir de séduction incroyable et Jésus a fait une prophétie. Il y en a plein qui vont faire profession de foi et qui vont abandonner la foi, séduits par le péché. C'est assez pratique, non? C'est assez concret. Jésus nous l'a annoncé, le programme est clair. Ceux qui seront trouvés fidèles pour persévérer jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. On revient dans Matthieu 24. Premièrement, prenez garde aux séducteurs. Deuxièmement, préparez-vous à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Troisièmement, ne vous laissez pas refroidir par le péché. Quatrièmement, ne soyez pas découragés par ceux qui tombent au combat, qui abandonnent la foi. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'on peut être indifférent. Il y a des gens qui ont quitté cette église pour qui je prie depuis ma conversion. Certains dans ma famille. D'accord, je ne parle pas d'indifférence. Mais quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble point pour les tremblements de terre, pour les guerres et pour toutes ces choses, l'apôtre Jean nous dit, certains quittent l'église, ils n'étaient pas des nôtres. Que votre cœur ne se trouble point. À un certain moment donné, lorsque tu es dans la course de la vie chrétienne, tu as fait profession de foi, tu as cru et tu vois les hommes et les femmes tomber au combat. Abandonner la foi, renier Christ, se refroidir. Et cela peut devenir extrêmement décourageant. C'est vrai? Là, je m'adresse à ceux qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne. Moi, je vous le dis, vous n'avez pas assez de deux mains pour dire tous ceux que vous avez vus autour de vous, abandonnez la foi. Des fois, après avoir été super impliqué dans l'Église, après avoir été diacre, diaconesse, ancien, pasteur, abandonner la foi. Des gens avec qui j'ai fait mes études en théologie, qui ont été des pasteurs que j'admirais, qui ont abandonné la foi. J'en ai au moins 5. Et tout ceci peut devenir lourd. Pourtant, le Seigneur Jésus l'avait annoncé. Ne vous découragez pas. Gardez les regards fixés sur Christ. Parce qu'il revient. Tout ceci n'est pas un signe que Jésus-Christ n'est pas vivant, que Dieu n'existe pas et que Jésus-Christ ne reviendra pas. Ne soyez pas découragés par ceux qui tombent au combat et qui abandonnent la foi, mais au contraire, persévérez. Persévérez. Écoutez, le péché nous enveloppe extrêmement facilement. Soyons pratiques. Qu'est-ce que je vais faire pour me mettre à l'abri de ça? Vous savez quoi? Je vais avoir des amis, des frères et sœurs dans la foi avec qui je vais me réunir régulièrement. Laissez-moi le mettre plus concrètement. Dans notre église ici, on appelle ça des petits groupes ici. Vous savez pourquoi? Parce que le train-train de la vie quotidienne, du day-to-day, nous distrait de Dieu. C'est tellement facile et on a besoin de se rassembler pour s'exhorter les uns les autres, pour prier les uns avec les autres, pour porter les fardeaux les uns des autres. On n'est pas appelé à vivre ça dans notre petit coin tout seul. Trouvez-vous des frères et sœurs dans l'Église avec qui vous allez pouvoir développer une amitié intime et qui vont avoir le droit de vous dire « Yannick, il me semble que tu es arrogant depuis un an. » Vous savez que François puis Stéphane, mes deux amis avec qui je fais deux retraites par année, une de nos retraites, c'était mon meeting à moi. Hein? Ça tourne comme ça, on dirait que le Saint-Esprit a des meetings. Et pendant 3 jours, ils m'ont dit, Yannick, on trouve que tu es arrogant. Tu es un gars arrogant. On sent de l'arrogance dans tes paroles. Le Seigneur veut sanctifier ça dans ta vie. Tu es au-dessus de nous, tu nous plantes avec tes arguments. Tu es arrogant. Dieu m'a brisé. Est-ce que c'était désagréable ou est-ce que c'était une bénédiction de Dieu? Est-ce que vous avez des gens qui peuvent faire ça avec vous? De dire, il me semble que tu as les mœurs légères depuis un bout de temps, tu as les regards ailleurs, je ne t'entends pas parler de ton épouse avec passion. J'ai l'impression que Dieu est plus important et que tu es en train de poursuivre une carrière, de t'installer ici-bas. Il me semble que ça fait des années que je ne t'ai pas entendu dire que tu avais annoncé l'Évangile à quelqu'un. Est-ce que vous avez des amis qui font ça avec vous, des frères et sœurs dans la foi? J'espère que oui. J'espère que vous confessez vos péchés avec des frères et sœurs. Moi, je le fais, je vous le dis, je le fais. Je le fais avec les gars ici, je le fais avec les gars du conseil, je le fais avec les frères que je coach, je le fais avec des jeunes chrétiens, avec des vieux chrétiens. Il n'y a pas de problème. Ils connaissent mes combats, ils connaissent mes luttes. Pourquoi? Parce que le péché nous enveloppe facilement. Et moi, je vais être trouvé fidèle. Je vais persévérer jusqu'à la fin. Dernière exhortation pratique dans Matthieu 24. Et ça, je trouve que c'est une belle note d'encouragement. Parce qu'on est au combat, mais on est en mission. Verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Prêchez la parole de Dieu. Quand vous lisez Matthieu 24 et vous voyez les souffrances que nous sommes appelés à vivre, les séducteurs qui tournent autour, le fait qu'on va être persécuté pour le nom de Jésus-Christ, voulez-vous me dire pourquoi on est ici-bas si c'est pour autre chose qu'annoncer l'Évangile? Pourquoi d'autre? Il y a une promesse que Jésus donne ici, l'Évangile sera prêché à toutes les nations de la terre. Bien, prêcher l'Évangile. Nous sommes en mission. Et lorsque nous perdons de vue le fait que nous sommes en mission, on commence à s'imaginer que nous sommes dans une croisière. Et on se tourne vers les Écritures pour trouver des principes pour améliorer notre condition de vie. Des principes de sagesse pour ne pas être dans l'endettement. Des principes de sagesse pour avoir des belles relations les uns avec les autres. Des principes de sagesse pour pouvoir développer ma carrière. Des principes de sagesse pour pouvoir garder mon couple en santé. Ce sont toutes des bonnes choses. Mais nous sommes en guerre. Et la raison pour laquelle on est ici, c'est pour annoncer la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais être pratique encore une fois. Allez pas imaginer, s'il vous plaît, qu'on fait venir Tony Anthony ici pour être une église populaire. De grâce. De grâce. Si vous avez cette image-là de nous, quel cynisme, frères et sœurs. De grâce. Quand vous voyez qu'on organise des événements comme ça, c'est pour vous accompagner dans votre prédication de l'Évangile. C'est pour ça qu'on fait ça. Alors, quand il y a un événement comme ça, sors ton argent, achète des billets, va scandaliser tout le monde avec le message de l'Évangile, puis sauve-en quelques-uns. Amen. Annoncez l'Évangile lorsqu'il y a des événements comme ceux-là. Vous n'êtes pas affermi dans votre prédication de l'Évangile. Il va donner un cours le 25. C'est le temps. C'est la seule raison pour laquelle on est ici. Tout le reste, on va le faire mieux de l'autre côté. Alors, tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain. Il y a toutes sortes d'arguments qui viennent. Tu ne sais pas comment répondre. Tu ne sais pas comment ramener les gens à l'Évangile. Tu as l'impression, quand tu discutes avec quelqu'un qui est dans l'Église catholique, que tout ce que tu as à dire, c'est ce que j'ai dit tantôt dans mon cours. La différence, c'est que vous priez Marie, nous, on prie Jésus. OK, mais on faudrait se rendre à la croix à un moment donné. Oui, mais je ne sais pas comment le faire. Il y a un cours. Il y a un cours juste pour ça. Oui, mais c'est pas assez, je manque d'assurance. Accroche un frère qui est un modèle pour toi. Puis dis-lui, tu veux-tu me montrer comment on fait ça? La semaine dernière, on a parlé d'un ministère qui est en train de partir ici dans l'Église, c'est la fusion. Je suis concret là ce matin. Vous voulez prêcher l'Évangile, vous voulez entrer dans la mission, on a un ministère qui s'appelle la fusion. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe avec la fusion, c'est un ministère d'accueil, d'accord? C'est pour les gens. Il y a des gens tout à l'heure qui ont levé la main comme visiteurs. Je m'excuse, je vous donne un scoop, c'est pas très, très, très bon comme marketing. Il y a quelqu'un qui va aller vous voir tantôt, qui va vous dire, on aimerait ça vous rencontrer, faire connaissance avec vous. Ça, c'est la fusion. Maintenant, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que l'Église de l'Espoir n'est plus dans un petit quartier résidentiel, on est sur une artère de Longueuil. Alors, vous savez quoi? On a des gens qui viennent ici qui ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ. Probablement à 30% de personnes qui viennent ici, qui sont en quête de Dieu, mais qui ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ. Si tu t'impliques dans le ministère de la fusion, à peu près une fois sur trois, ce que tu vas faire quand tu vas aller prendre un café, tu vas rencontrer quelqu'un qui est venu dans ton église, qui cherche Dieu, mais qui ne connaît pas personnellement Jésus-Christ. C'est une autre histoire que d'aller cogner aux portes, ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Là, je veux dire, ça commence à être excitant, là. La personne vient chez toi, elle veut en savoir plus sur Dieu. Tu as l'opportunité d'entrer dans la mission, de pouvoir annoncer Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce que je vois lorsque je lis Matthieu 24, je vois un programme, une période qui va être difficile. Mais en même temps, lorsque je regarde à la personne de Jésus-Christ, que je regarde sa vie dans les évangiles, sa vie dans l'évangile de Matthieu, ce que je vois, c'est quelqu'un qui était paisible, qui était reposé, qui était confiant en Dieu. Je veux dire, c'est agréable d'être avec lui, n'est-ce pas? C'était quelqu'un qui était bon, qui était calme à peu près en toutes circonstances. À part dans le temple, peut-être? Oui, il s'est énervé un peu. Mais en même temps, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est en mission. Son agenda était bouleversé à tout moment par les priorités du Père, les priorités du royaume. Il n'y avait pas de vie, ce gars-là. Il faisait la vie privée. Ouais, OK, va dans le désert pour prier quelques heures. Espère qu'il ne t'attrape pas tout de suite. Là. Il n'y avait pas de vie privée. Jésus était le modèle du repos en Dieu, mais il était en mission. Amen. Il était en mission. Il était en train de se dévouer, il était en train de se donner. C'est notre programme jusqu'à son retour. Il nous a donné une promesse, il va revenir. On va tous le savoir quand il va revenir. Quand, je ne sais pas. Une chose est sûre, d'ici là, il va y avoir des séducteurs. Connaissez la parole. Il va y avoir des gens qui vont abandonner la foi. Soyez pas découragés. Vous allez souffrir pour le nom de Jésus-Christ. L'Évangile sera toujours un scandale. S'il ne l'est plus, vous ne prêchez pas l'Évangile, je vous le dis. Vous allez souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Le péché va être là et plusieurs vont abandonner la foi, enveloppés dans le péché, confortablement installés dans leur ancienne vie. Mais ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Alors, entre-temps, annonçons la bonne nouvelle du royaume. Et dans sa grâce, lorsqu'il va revenir, nous allons entrer enfin dans la croisière pour l'éternité. On va prier. Seigneur Jésus, quand je suis venu à toi, c'était pour trouver le repos. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé, Seigneur, que ce serait le repos sur le champ de bataille. La sieste dans la barque au milieu de la tempête, Seigneur. J'étais incapable de concevoir que tu m'appellerais à un tel dépouillement de moi-même, Seigneur. Et pourtant, dans ta grâce, plus j'avance et plus je meurs à moi-même, Seigneur, plus je peux dire, je suis en paix et dans le repos. Plus, Seigneur, je te cède les guides de ma vie, plus je peux dire, Seigneur Jésus, c'est mon expérience à moi que je suis dans le repos que tu m'avais annoncé. Sois mon guide, Seigneur, que je sois trouvé fidèle à ton retour, annonçant la bonne nouvelle du royaume, prêt à souffrir pour le nom de Jésus-Christ, résistant jusqu'au sang, au péché qui nous enveloppe si facilement, bien fondé dans ta parole pour discerner les faux docteurs, les fausses doctrines, Seigneur. Et ainsi, je suis prêt, Seigneur, à ton retour. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.